Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 24 mars et nous sommes en direct depuis le Salon du Livre de Paris qui vient d'ouvrir ses portes. Les premiers promeneurs s'aventurent entre les stands. Nous sommes ici pour les 50 prochaines minutes à 10h46. Vous retrouverez comme tous les vendredis Géraldine Mosna-Savoie pour son petit précis philosophique à l'usage des candidats. Géraldine qui dispensera de précieux conseils philosophiques à Jean-Luc Mélenchon. Allez, en route sur les chemins de la philosophie à la rencontre de notre invité très spécial.
Voici en quels termes Senghor évoque l'importance qu'a eue cette date de 1889, qui est celle de la publication de la thèse d'Henri Bergson pour l'histoire de la pensée et de la création poétique. L'année 1889 est une date importante dans l'histoire de la philosophie, des lettres, mais aussi des arts. C'est celle d'une œuvre majeure laissée sur les données immédiates de la conscience d'Henri Bergson. En réalité, pour Senghor, Bergson a exprimé en sa totalité l'esprit 1889, comme on pourrait le caractériser, fait advenir une vérité philosophique qui s'est réfractée, pour ainsi dire, aussi bien dans la philosophie, les arts, les sciences même, que les lettres. La révolution de 1889, c'est vraiment Henri Bergson.
Bonjour Souleymane Bachirdiagne.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci de m'accueillir.
Oh, c'est toujours un plaisir de vous accueillir et cette fois-ci en direct depuis le Salon du Livre. Vous êtes l'invité international du Salon. Vous savez ça?
C'est un grand honneur, je l'ai découvert en arrivant.
Vous n'êtes pas venu pour rien. Et les promeneurs qui commencent à s'aventurer entre les stands du Salon du Livre vont le découvrir. Vous venez de lire un extrait d'un ouvrage que vous aviez publié en 2011, qui est paru en poche en 2014, qui est en train d'être traduit en anglais et qui s'intitule « Bergson postcolonial ». Alors déjà, le titre est surprenant, mais l'extrait que vous venez de lire l'est tout autant. On y apprend que l'année 1889 était une année de révolution en philosophie, sachant que 1889 correspond à l'année de parution des essais sur les données immédiates de la conscience d'Henri Bergson.
Oui, alors on a entendu effectivement Léopold Sédar Senghor très influencé par Bergson, bergsonien devant l'éternel, on pourrait dire, saluer cette date, 1889, en jouant bien entendu sur les mots, comme étant la véritable fin du 19e siècle. Pour lui, c'est vraiment un siècle nouveau dans la pensée, dans les arts, dans les lettres, qui s'inaugure cette année-là. Et la marque de cette inauguration pour lui, c'est la publication du premier livre de Bergson, qui est également sa thèse, l'essai sur les données immédiates de la conscience.
Mais quand vous parlez d'un Bergson postcolonial, c'est par esprit de provocation ?
Évidemment, il y a de cela, parce que c'est un titre qui, évidemment, frappe. Mais une fois, par exemple, qu'on a commencé par cet extrait de Senghor saluant en Bergson, le penseur qui inaugure véritablement un siècle nouveau, ce que Frédéric Worms a appelé le moment 1900, on se rend compte que Bergson postcolonial, ça a un sens, puisque sa notoriété, on le sait, était très grande en France, en Europe, en Amérique, etc. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est l'influence très profonde qu'il a exercée sur des intellectuels de ce qu'on appellerait aujourd'hui le tiers-monde, disons les intellectuels du Sud, quelqu'un comme Senghor et d'autres intellectuels en Afrique, mais également quelqu'un comme Mohamed Iqbal et beaucoup d'intellectuels du monde musulman. Et c'est en ayant en vue cette influence profonde que Bergson a exercée sur ces penseurs-là, ces penseurs du monde colonial, ces penseurs de la décolonisation, que j'ai intitulé mon petit ouvrage « Bergson postcolonial ».
On en trouve deux principalement dans votre ouvrage, deux intellectuels qui auraient lu Bergson et qui se seraient beaucoup inspirés de cette pensée-là, enfin même plus qu'inspirés, qui s'en sont vraiment servis dans un usage quasiment politique, dites-vous. C'est d'abord, on en a parlé, Senghor, évidemment, mais aussi Mohamed Iqbal.
Oui, et ce triangle me semblait un triangle assez fascinant. Voilà donc qu'un intellectuel africain catholique comme Senghor trouve à s'inspirer de la philosophie de l'élan vital et de l'intuition de Bergson, mais de l'autre côté, dans le, du, venant du monde indien, un philosophe, poète, lui aussi comme Senghor, et musulman, à la différence de Senghor, trouve à s'inspirer de la philosophie de l'élan vital du même Henri Bergson, qui lui-même, il faut le rappeler, est philosophe juif attiré par le catholicisme. Donc ce triangle me semblait tout à fait important, et je l'ai exploré dans ce livre.
Et c'est un ouvrage extrêmement réussi, très agréable à lire, qui fait à peu près une centaine de pages, hein, qui en ces quelques pages arrive à saisir l'intensité même de ce triangle dont vous parlez. Alors on ne va pas présupposer on ne présupposera aucune connaissance de ces trois auteurs de la part des auditeurs et du public qui vient s'installer devant vous, Souleymane Bachirdiane, pour vous écouter, puisque je rappelle que nous sommes en direct depuis le Salon du Livre. Commençons par le commencement. Si Bergson a influencé Iqbal d'un côté et Senghor de l'autre, c'est avec quel concept? Eh bien, il y a un concept sur lequel il faut revenir, deux en fait, c'est celui d'élan vital et celui d'intuition. Je vous propose que l'on entende tout de suite un extrait de La pensée et le mouvement dans l'introduction à la métaphysique qui date de 1903. Un extrait, c'est un texte absolument magnifique de Bergson qui va être interprété pour vous en direct par Georges Claes, qui est à mes côtés donc aussi au Salon du Livre et qui vous lit donc tout de suite l'introduction à la métaphysique de Bergson.
Il y a une réalité au moins que nous saisissons tous du dedans par intuition et non par simple analyse. C'est notre propre personne dans son écoulement à travers le temps. C'est notre moi qui dure. Nous pouvons nous sympathiser intellectuellement, ou plutôt spirituellement, avec aucune autre chose. Mais nous sympathisons sûrement avec nous-mêmes. Quand je promène sur ma personne, supposée inactive, le regard intérieur de ma conscience, j'aperçois d'abord, ainsi qu'une croûte solidifiée à la surface, toutes les perceptions qui lui arrivent du monde matériel. Ces perceptions sont nettes, distinctes, juxtaposées ou juxtaposables les unes aux autres. Elles cherchent à se grouper en objets. J'aperçois ensuite des souvenirs plus ou moins adhérents à ces perceptions et qui servent à les interpréter. Ces souvenirs se sont comme détachés du fond de ma personne, attirés à la périphérie par les perceptions qui leur ressemblent. Ils sont posés sur moi sans être absolument moi-même. Et enfin, je sens se manifester des tendances, des habitudes motrices, une foule d'actions virtuelles plus ou moins solidement liées à ces perceptions et à ces souvenirs. Tous ces éléments, aux formes bien arrêtées, me paraissent d'autant plus distincts de moi qu'ils sont plus distincts les uns des autres. Orientés du dedans vers le dehors, ils constituent, réunis, la surface d'une sphère qui tend à s'élargir et à se perdre dans le monde extérieur. Mais si je me ramasse de la périphérie vers le centre, si je cherche au fond de moi ce qui est le plus uniformément et le plus constamment, le plus durablement moi-même, je trouve tout autre chose.
Chemin de la philosophie en direct depuis le Salon du Livre, où les passants, promeneurs, amoureux des livres viennent s'assemblent de plus en plus nombreux pour admirer Georges Claes à ma droite et Souleymane Bachirdiane à ma gauche. Quel casting! Vous avez de la chance alors. Et vous autres chers auditeurs de l'autre côté du poste, vous pouvez les entendre et vous entendez aussi le bruit que l'on entend qui entoure chaque stand ici au Salon du Livre. Alors on vient d'entendre le texte de La pensée et le mouvement de Bergson, l'introduction à la métaphysique. Souleymane Bachirdiane, on a une définition de ce que peut être l'intuition, enfin une définition bergsonienne, c'est-à-dire qu'il part toujours d'une expérience, hein, c'est jamais une définition purement formelle qu'il propose.
Absolument. Et d'ailleurs, nous-mêmes et nos auditeurs auront remarqué à quel point son langage est métaphorique pour expliquer ce qu'est l'intuition. Alors pourquoi? Pourquoi ces métaphores, cette sphère à la surface de laquelle, vers la surface de laquelle on va, etc. Parce que, il faut le rappeler, pour Bergson, nous avons pour l'essentiel deux grands moyens d'accéder à la connaissance du monde. Nous avons deux facultés de connaissance qu'il distingue bien. Une faculté qui est, pour ainsi dire, dans la continuité de notre évolution vitale. L'évolution qui nous a créé en nous de manière directe, dans le fil même de sa trajectoire, une faculté de connaissance qui est directe des choses, ce qu'il appelle intuition. Nous nous situons d'emblée dans ce que nous connaissons, nous coïncidons avec ce que nous connaissons, nous faisons un avec ce que nous connaissons. À la différence d'une faculté analytique, cette faculté analytique qui prend en quelque sorte la tangente par rapport à la ligne d'évolution directe, qui est capable de se retourner sur elle-même et d'analyser les choses. Avec cette faculté, nous connaissons les choses en les décomposant en quelque sorte en leurs composantes. Et d'abord, nous les connaissons en nous séparant d'elles. Nous nous définissons donc de manière séparée comme sujet connaissant un objet, et l'objet lui-même, nous le connaissons en le décomposant en ses différentes parties. Et donc, le problème, c'est que notre langage, notre manière de parler, est la production de cette faculté analytique. Comment alors parler de l'autre faculté de connaissance qui, elle, n'est pas analytique, mais directe, immédiate, intuitive? Le seul moyen de le faire, c'est d'utiliser des métaphores. Et donc, on voit pourquoi ce texte de Bergson est aussi métaphorique. Il faut s'approcher autant qu'on le peut de l'expression d'une faculté dans le langage d'une autre faculté. Prolongeant d'ailleurs les métaphores qu'il utilise ici pour parler de cet objet d'intuition qui est notre propre moi. Mon identité, je ne la saisis pas par analyse. Je la saisis de manière directe. Et je sens que je suis ce moi qui dure, comme il le dit. Une métaphore qu'utilise Bergson pour parler de cela, c'est de dire que je fais boule de neige avec moi-même. C'est l'une des métaphores que je préfère chez Bergson pour parler précisément de ce moi qui dure.
C'est un sacré défi lancé à la philosophie même que la méthode bergsonienne qui consiste à essayer de ressaisir l'intuition au plus près d'elle-même par les cadres maladroits de l'intelligence qui ne peut pas faire l'économie de ces étiquettes qu'on pose sur les choses pour mieux les connaître. Il y a une phrase de Bergson qui résume magnifiquement ce geste-là qu'on trouve aussi dans La pensée et le mouvement, hein, où il raconte comment le philosophe tente de saisir un point pour écrire et il dit en ce point quelque chose de simple, de si simple, de si extraordinairement simple qu'il n'a jamais réussi à le dire et c'est pourquoi il a écrit toute sa vie.
Mais exactement. Et donc toute cette écriture, toute la masse d'écriture que l'on produit, c'est une manière de tourner autour de la même intuition et c'est effectivement une manière tout à fait magnifique de présenter l'activité philosophique.
Et une manière de réconcilier la philosophie avec un geste poétique quasiment. Vous parlez de l'importance des métaphores.
Oui, la langue de Bergson devient poétique à bien des endroits. Et c'est ce qui fait la beauté de cette pensée. Elle est à la fois belle et profonde, et profondément vraie. Et je crois que c'est pour cela qu'elle a eu autant d'influence, aussi bien en France qu'à l'extérieur. Et c'est pour cela qu'elle est une pensée insubmersible. Les études bergsoniennes, comme vous le savez, sont de retour et très fortement.
Alors comment s'est passée cette ressaisie de l'intuition, puisque c'est bien de ce concept-là qu'il s'agit en premier, par Senghor par exemple, commençons par Léopold Sédar Senghor qui s'empare, qui se saisit de ce concept même de l'intuition pour lui donner un nouvel élan, sans mauvais jeu de mots.
Mais oui, mais vous avez raison de parler d'élan en la matière, parce que quand Senghor rencontre la pensée bergsonienne, ce qui était tout à fait normal, il a vécu en France dans les années 30, au moment où la pensée bergsonienne, évidemment, occupait le terrain intellectuel. Senghor est profondément vitaliste. Il estime que quelque chose de l'approche africaine des choses révélée par l'art africain est une pensée vitaliste, une pensée de l'élan vital. Et donc la traduction pour lui se faisait très aisément de son approche de l'esthétique africaine et du vitalisme bergsonien. Alors, je parlais tout à l'heure de cette faculté de connaissance qui est en ligne directe de l'évolution créatrice, et donc ça veut dire que cette faculté-là nous donne une connaissance qu'on pourrait dire vitale des choses. Et la traduction qu'effectue Senghor, c'est de dire, mais bon sang, c'est bien sûr, voilà comment il faut comprendre l'art africain, voilà comment il faut comprendre le fait que cet art ne soit pas un art de limitation de la nature. On n'essaye pas de représenter les choses telles qu'elles sont, on n'essaye pas de reproduire les belles apparences, au contraire, on utilise des formes géométriques, on utilise à dessein des disproportions. Le corps humain est totalement disproportionné, on peut avoir une tête gigantesque sur un corps tout à fait malingre, ou alors l'inverse, où on grossit tel ou tel aspect du corps humain, parce que, dit Senghor, il s'agit précisément non pas de capter la belle apparence de la chose, mais de capturer la force qui est la force vitale de la chose elle-même. Et donc, il commence ses premiers écrits, les premiers écrits de Senghor sont des écrits sur l'esthétique africaine, et ces écrits vont rencontrer tout naturellement cette notion bergsonienne de l'intuition. Ce que va dire Senghor, c'est que cette connaissance vitale des choses qui se manifeste dans l'art africain, c'est une manière pour l'artiste d'entrer en connexion immédiate, sans aucune analyse, si vous voulez, d'être en sympathie, c'est encore un mot qu'utilise Bergson, avec la chose. Et de faire en sorte que le spectateur qui regarde une sculpture ou un masque africain perçoive lui aussi ou elle aussi, de manière tout à fait directe, l'émotion, la vitalité dont ce masque ou cette sculpture sont porteurs.
Donc c'est à partir d'une réflexion sur l'art africain que Senghor s'intéresse à Bergson et le mobilise pour essayer de légitimer sans doute cet art, parce que s'il le fait, c'est qu'il le sent, il se sent presque obligé d'expliquer ce rapport-là à l'art africain, non ?
Mais oui, parce qu'il vit à une époque, effectivement, où l'art africain commence à entrer dans la réflexion collective. Il faut se souvenir qu'au début du siècle, les grands artistes européens, Picasso en particulier, rencontrent les formes artistiques africaines, les intègrent dans leur propre recherche formelle. Et donc, il y a quelque chose à dire de cet art africain. Il y a une réflexion à mener sur la manière dont l'artiste africain se représente un monde au-delà de la réalité de ce monde-là. Et quand Senghor rencontre chez Bergson cette idée d'une connaissance vitale des choses à côté d'une connaissance analytique des choses, évidemment, le langage dans lequel il va parler de cet art africain, pour lui, est tout trouvé. Et la clé du bergsonisme senghorien en matière esthétique, parce qu'il y a un bergsonisme senghorien dans d'autres domaines, est bien là.
On va entendre la voix de Léopold Sédar Senghor qui propose une définition de ce qu'il nomme la négritude, et vous verrez, la définition qu'il en propose est proprement esthétique au sens fort du terme. Écoutez.
La négritude, c'est le tréfonds du peuple noir. Nous pourrions dire également que la négritude, c'est le fond, ce n'est pas la forme du peuple noir. Et pour m'exprimer vraiment en nègre, la négritude, c'est essentiellement le rythme, le mouvement. Et c'est ça qui est vivant, car la vie est mouvement, car la vie est rythme. C'est-à-dire quelque chose d'ordonné et de non prévu en même temps. C'est essentiellement cela, la négritude. C'est cette vie qui étonne, cette vie qui intervient quand on ne l'attend pas, cette vie qui bouleverse toutes les prévisions, cette vie plus forte que l'amour.
C'est très clair ici le glissement que fait Senghor entre une définition de ce qu'est le rythme, comme ce mouvement non prévu, hein, et qui est du rythme, donc le glissement du rythme vers ce qu'il appelle la négritude. Et les termes bergsoniens qu'il emploie montrent qu'ici, c'est pas simplement une utilisation annexe du concept d'élan vital ou du vitalisme bergsonien pour définir ce qu'il en est, c'est l'essence même de la négritude qui est bergsonienne.
Absolument. Et parce que la négritude ne se comprend que de cette manière-là, comme une philosophie de la poussée vitale et une philosophie de la force vitale. L'une des prémices essentielles de ce que dit Senghor, c'est que être, exister, c'est être une force. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de dire on existe et on a une force, parce que là, ce serait une sorte d'attribution de l'extérieur de la force à un être qui, lui, est inerte. Non, il s'agit de dire que l'être, c'est la même chose que la vie, c'est la même chose que être une force. Et c'est cela qu'essaye de capturer, de transmettre l'art. Et vous avez raison de souligner qu'on croit entendre Bergson parlant ici de la vie, du mouvement, du rythme. On pourrait dire de ce point de vue-là que le rythme, c'est ce qui vient donner son individualité à la force. Chaque être est un rythme ou une sonorité particulière. Et je voudrais ici, d'ailleurs, à la suite de ce bel extrait qui a été lu de Senghor, faire deux remarques. Alors, la première, on l'a déjà faite, c'est l'importance de la notion de vitalisme et le langage bergsonien qui est celui de Senghor lorsqu'il en parle. La deuxième chose, c'est que finalement, ceci déracialise complètement la négritude.
C'est ça qui est compliqué à comprendre, parce que le terme de négritude, ça donc, semble au contraire essentialiser.
Mais oui. Alors justement, Senghor a été accusé d'essentialisme, d'enfermement dans la spécificité d'une race, quelque chose qui appartiendrait au peuple noir à l'exclusion de tous les autres peuples. Mais on se rend compte précisément qu'en définitive, ce qu'il dit ici du nègre et de ce rapport vital aux choses ne fait que parler d'une autre face de notre humanité commune. En réalité, il y a une déracialisation totale de l'idée de négritude, même si au départ, l'idée de négritude est une idée dont lui-même, Césaire ou Damas se sont emparés en réponse à l'essentialisme colonial et à la négation coloniale de la civilisation, de toute civilisation, de toute forme de civilisation pour les Africains. Et ça, c'est un aspect très important. Senghor serait prêt à dire que Bergson est un nègre.
C'est ça, c'est qu'il y a une dimension universelle de la négritude.
Absolument. Senghor d'ailleurs dit « nos poètes nègres » parlant de Rimbaud et de Claudel, pour exactement les mêmes raisons qu'il serait prêt à faire de Bergson lui aussi un nègre. Donc le mot « nègre » finit par être un concept philosophique détachable et détaché de toute implication raciale.
Ce qui est fascinant, alors on va en savoir un peu plus. Laissons encore la parole à Léopold Sédar Senghor, mais cette fois-ci à travers la voix de Georges Claisse, qui est donc avec nous ici, Souleymane Bachir Diagne, en direct depuis le Salon du Livre. Voici un extrait de Ce que l'homme noir apporte, qui date de 1939, et dans lequel on entend cette phrase restée célèbre, « L'émotion est nègre comme la raison est laine ». Voici Georges Claisse.
Bien des ouvrages ont paru sur l'âme nègre. Elle demeure forêt mystérieuse sous le vol des avions. C'est d'un confusionnisme tout rationaliste d'expliquer le nègre par son utilitarisme quand il est pratique, par son matérialisme quand il est sensuel. Veut-on comprendre son âme ? Faisons-nous une sensibilité comme la sienne. Sans littérature entre le sujet et l'objet, sans imagination au sens courant du mot, sans sujet ni objet. Que les couleurs ne perdent rien de leur intensité, les formes rien de leur poids ni de leur volume, les sons rien de leur singularité charnelle. Jusqu'au rythme, imperceptible apparemment à toutes les sollicitations du monde, le corps nègre, l'âme nègre, sont perméables. Pas à celle du cosmos seulement, sensibilité morale aussi. C'est un fait noté souvent que le nègre est sensible aux paroles et aux idées, encore qu'il le soit singulièrement aux qualités sensibles, dirais-je sensuelles, de la parole, aux qualités spirituelles, non intellectuelles, des idées. Sensibilité émotive. L'émotion est nègre comme la raison est hélène. Oh, que rident tous les souffles, âme de plein air battue des vents et d'où le fruit souvent tombe avant maturité. Oui, en un sens. Le nègre aujourd'hui est plus riche de dons que d'œuvres. Mais l'arbre plonge ses racines loin dans la terre. Le fleuve coule profond, charriant des paillettes précieuses. La nature même de l'émotion, de la sensibilité du nègre, explique l'attitude de celui-ci devant l'objet perçu avec une telle violence essentielle. C'est un abandon qui devient besoin. Attitude active de communion, voire d'identification, pour peu que soit forte l'action, j'allais dire, la personnalité de l'objet. Attitude rythmique, que l'on retienne le mot.
Aidez-nous à bien comprendre le texte Suleymane Bachir Diagne, parce qu'en l'écoutant, ici interprété par Georges Claes, on a l'impression, à première écoute en tout cas, que Senghor identifie ce qu'il appelle le nègre à l'émotion, à la sensibilité, quand la raison serait hélène, c'est-à-dire appartiendrait à une autre culture. Ça ne peut pas ne pas te poser de problème.
Ah mais ça en a posé et ça continue à en poser. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Senghor et à Senghor à cause de cette formule ? D'abord, notons une chose, il ne vous aura pas échappé, il n'aura certainement pas échappé à nos auditeurs, à la lecture impeccable de Georges Clex, que l'émotion est nègre comme la raison hélène, c'est un alexandrin. C'est-à-dire qu'on sent parfaitement que Senghor a ici chiadé, comme on dit, sa formule, il a cherché à faire formule. Et bien souvent, quand on cherche à faire formule alors qu'on écrit, on va au-delà de ce qu'on aurait souhaité dire. Et il y a une première lecture, évidemment, littérale, qui consiste à dire ben, voilà qu'il sépare deux humanités différentes, une humanité nègre qui serait dominée par l'émotion, alors qu'une humanité rationnelle, hélène, européenne, disons, serait, elle, dominée par la raison. On a accusé Senghor de reprendre à son compte des idées colonialistes de Lévi-Brulle, qui voyait la différence entre une rationalité européenne et une mentalité primitive.
L'ethnologue Lévi-Brulle.
L'ethnologue Lévi-Brulle, voilà. Que Senghor cite souvent. Faut dire qu'il a, à un moment donné, fréquenté lui-même l'Institut d'ethnologie de Paris, qui avait été fondé, entre autres, par Lucien Lévi-Brulle. Alors, est-ce que c'est bien de cela qu'il s'agit ? Est-ce qu'il s'agit pour lui de reprendre à son compte cette distinction radicale opérée par Lucien Lévi-Brulle entre une mentalité primitive qui serait pré-logique ou allogique et une identité cognitive, intellectuelle européenne qui, elle, serait totalement de part en part rationnelle.
Notons que si c'est le cas, c'est anti-bergsonien, parce que Bergson n'oppose pas l'intuition
mais
à la raison.
Voilà, précisément, Senghor est bien trop bergsonien pour s'abandonner à cette distinction radicale lévi-brullienne. Bergson a écrit contre la mentalité primitive de Lévi-Brulle. Et Senghor, même s'il semble avoir le langage de Lévi-Brulle par moment, en réalité est bien trop profondément bergsonien pour opérer une telle séparation. Il a passé le reste de sa vie, le pauvre, à expliquer qu'il n'a jamais dit que les nègres ne soient pas non plus rationnels et que les hélènes ne soient pas non plus des êtres d'émotion. Autrement dit, et comme le dira d'ailleurs très joliment Lévinas, parlant de Lévi-Brulle, puisque Lévi-Brulle, à la fin de sa vie, va produire une palinodie. Il va dire, en réalité, que cette séparation radicale qu'il avait effectuée entre une humanité européenne et une humanité primitive qui serait prélogique n'avait aucune raison d'être. Il est revenu sur sa distinction lui-même. Et pour résumer cela, Lévinas dira de lui qu'il avait parlé non pas de deux âmes différentes, mais de deux profondeurs d'une même âme, en parlant d'un côté de l'émotion et de l'autre de la raison. Et c'est bien ainsi que Senghor entend les choses. Si nous nous reportons au contexte général de cet essai qu'il écrit en 1939, « Ce que l'homme noir apporte », C'est un texte de réflexion sur la signification de l'art africain. Jusque-là, il aura expliqué précisément que l'art africain est davantage une production de la face émotion de notre faculté de connaître qu'une production de la face raison de notre faculté de connaître. Autrement dit, la raison, la rationalité serait plutôt du côté de la reproduction des belles formes, de l'imitation de la nature, de la belle représentation de la nature telle qu'elle est, alors que l'émotion tournerait le dos à l'aspect purement mimétique de la reproduction artistique pour essayer de capturer ce que Senghor appelle la sous-réalité d'un objet, c'est-à-dire la force vitale dont l'apparence extérieure de l'objet est une manifestation. Donc, si on voit ce contexte-là, on comprend bien mieux la formule qu'il a très recherchée, qu'il a ici employée et qui lui a été fortement reprochée, en y voyant une simple analogie. Senghor est en train de dire que les œuvres artistiques africaines sont à l'émotion ce que les œuvres de la statuaire gréco-romaine, par exemple, sont à la raison. Et dès lors qu'on rétablit cette analogie-là, la formule apparaît infiniment moins scandaleuse qu'il n'y paraît.
Heureusement que vous êtes là pour l'expliquer quand même, Souleymane Bachir-Diagne,
mais
parce
oui,
que
mais
le texte même prête à beaucoup de
contresens.
C'est
dommage que Senghor ne soit plus là, il m'aurait payé des royalties comme étant un explicateur.
Parce que c'est vrai que du coup, si on nous en tient à cette lecture qui simpliste mais présente dans le texte, encore une fois, c'est anti-bergsonien, parce que Bergson, toute l'œuvre de Bergson, si elle distingue l'intuition et l'intelligence, ce n'est jamais pour les opposer, les deux
Absolument.
Font partie d'un même mouvement.
Exactement.
Et c'est un contresens que d'essayer de les dissocier et de les opposer.
Exactement, et surtout, Bergson est quelqu'un qui croit en l'unité de l'humanité. Et c'est la séparation radicale qu'il y a entre lui et celui qu'on appellera donc le premier Lucien Lévi-Bruhl, puisque, encore une fois, Lévi-Bruhl lui-même finira par renoncer à sa thèse du prélogisme.
Alors, il y a une dimension aussi plus politique à ce travail de Senghor sur Bergson, qui va nous permettre de faire le lien vers l'influence de Bergson sur Mohamed Iqbal, notamment. Pour Senghor, on parle quasiment d'un socialisme vitaliste.
Oui. Alors justement, là, dans cette influence, dans ce bergsonisme de Senghor, on mettra davantage l'accent sur l'élan vital que sur l'intuition. Parce que l'élan vital, cette poussée vitale qui est au centre de la pensée de Bergson, pour Senghor, trouve une traduction dans ce qu'il appelle la désaliénation, de manière générale, et en particulier la désaliénation et la philosophie de l'émancipation pour les peuples colonisés. Senghor estime que l'élan vital signifie aussi le progrès de l'humain vers davantage de liberté, toujours davantage de liberté, contre toutes les forces qui aliènent l'humain, qui le retiennent dans la poussée vitale qui, normalement, mène l'humain vers le haut, vers l'achèvement de sa propre humanité. Et donc, il y a pour lui, d'abord, une signification métaphysique et quasi cosmique à l'aliénation contre les forces qui, en principe, devraient amener l'humain vers la pleine réalisation de lui, de lui-même, comme artiste. Artiste au sens de l'homme libre et qui crée librement. Pour Senghor, le mouvement de l'humain doit le mener de l'homo faber à l'homo artifex, pour ainsi dire. Et c'est dans un cadre comme celui-là qu'il pense également l'aliénation coloniale. Autrement dit, la situation coloniale, la négation des peuples colonisés est un aspect important, essentiel d'un mouvement cosmique pratiquement de désaliénation de l'humain. Et pour lui, la véritable désaliénation, c'est également sur le plan collectif ce mouvement vers le socialisme. Donc chez lui, le socialisme a un sens quasi cosmique avant d'avoir une signification politique ou économique. Il voit le socialisme véritablement comme cette force d'émancipation qui va accorder à l'humain ce qui est la promesse de sa propre nature et ce qui est la promesse de l'élan vital et de l'évolution créatrice, c'est-à-dire la libération de sa force créative.
Mohamed Iqbal, il faut qu'on y vienne, il nous reste 10 minutes, Souleymane Bachir-Diagne. Juste pour le présenter, on va entendre un texte interprété par Georges Class, hein, une lecture de du livre de l'éternité. Il naît à Sialkot, dans une ville du Pendjab, à l'époque ce sont les Indes britanniques. Il va séjourner en Europe où il va rencontrer Bergson.
Il rencontre Bergson, en effet. Ils ont une conversation sur le temps.
Sur le temps, Il va être élu à l'Assemblée législative du Pendjab en 1927. Et il va se faire, c'est surtout ça qu'on retient de lui, en plus de son activité poétique, le défenseur d'un État musulman autonome qui va inspirer les fondateurs du Pakistan. Voici le texte interprété par Georges Clès, et puis on revient ensuite sur l'influence de Bergson sur Iqbal.
Qu'est-ce que l'ascension ? Seulement la recherche d'un témoin qui puisse finalement confirmer ta réalité. Un témoin dont la seule confirmation te rend éternel. Nul ne peut rester sans trouble en sa présence, et celui qui le peut, en vérité, il est d'or pur. N'es-tu donc qu'un grain de poussière ? Resserre le nœud de ton moi et tiens-toi formellement, fermement à ton être minime. Quelle splendeur que de faire briller son moi et d'éprouver son éclat en la présence du soleil. Sculpte donc ta forme ancienne et crée un nouvel être. Un tel être est l'être véritable. Sinon, ton ego n'est que fumée.
On y entend ici, Souleymane Bachir Diagne, la revendication d'un élan vital à l'échelle individuelle. C'est le soi qu'il s'agit de reconstruire et sans doute de dépasser. Sinon, nous dit Iqbal, ton ego n'est que fumée.
Oui, et là, il fait référence aussi à un aspect de la pensée de Bergson qui est la pensée de l'individu. L'être humain est mouvement vers sa propre individuation, vers sa propre individualité. Autrement dit, l'individu n'est pas une chose donnée, c'est une tâche à accomplir. Il faut devenir individu et ne peut être pleinement individu, finalement, que l'ego ultime qu'on écrit avec E majuscule et derrière lequel on a évidemment tout le loisir et le droit de lire Dieu. Et cette pensée-là va être également investi par Iqbal. Iqbal est un philosophe de l'ego humain. Iqbal estime aussi que l'être humain a à réaliser son individualité et que c'est cela, le mouvement de parachèvement de notre humanité. Autrement dit, l'humanité n'est pas donnée, l'humanité est une tâche, il est du devoir de l'être humain de devenir pleinement ce qu'il a à être, c'est-à-dire un ego. Et là encore, fidèle en cela à la pensée de Bergson, Iqbal estime que nous ne faisons que tendre asymptotiquement vers cette réalisation de ce qu'il appelle en anglais « selfhood », puisqu'il écrit en anglais, en persan et en ourdou. C'est-à-dire cette individualité, cette ipséité, cette égoïté, comme on pourrait dire, jargonnant un petit peu. Eh bien, c'est ce que l'on lit ici.
Oui.
Et ce faisant, le but, qui est également politique, ce n'est pas seulement une question métaphysique, philosophique, c'est également une question politique, parce que pour Iqbal, cette réalisation de soi comme individu et s'effectue non pas dans la contemplation, on ne se saisit pas comme un moi dans son poil, comme c'est le cas chez Descartes, ce moi se réalise dans l'action. Et la raison pour laquelle il est important pour lui de souligner cela, que l'humain va vers sa propre individuation, sa propre individualité, c'est pour s'opposer à un mysticisme qui estimerait que le but de l'humain, c'est la contemplation de quelque chose d'autre et le fait de se perdre dans ce que l'on contemple.
Pour comprendre quand même ça, il y a une chose que je n'ai pas dite qui est très importante, c'est que ce poème d'Iqbal, on le trouve à la fin de son livre « Reconstruire la pensée religieuse de l'islam ».
Mais oui.
C'est ça quand même la démarche.
C'est ça la démarche.
Religieuse, donc politique en fait.
La pleine reconstruction de la pensée religieuse de l'islam, pour lui, c'est précisément cela. Appeler l'individu à sa responsabilité d'être pleinement ce qu'il a à être, c'est-à-dire un individu, et un individu engagé dans l'action, une action de transformation de son monde, de libération de toutes les forces qui doivent être des forces émancipées, libres et créatrices dans un monde de l'aliénation. Et c'est en cela que l'élan vital ici, effectivement, chez Iqbal aussi, se fait projet politique.
Et c'est difficile de penser de l'articulation entre une pensée de soi, qu'il faut proposer, créer un nouvel être, nous dit Iqbal, de soi, de dépassement de soi vers la nouveauté, et en même temps un projet qui est à la fois religieux, on l'a dit, puisqu'il s'agit de reconstruire la pensée religieuse de l'islam. mais politique, c'est-à-dire étatique. Et le but est quand même de parvenir à cette forme d'indépendance religieuse étatique de l'islam avec le Pakistan, ce qui donnera le Pakistan.
Mais oui, alors justement, avec la possibilité toujours que cette pensée-là donne quelque chose d'autre, comme une comme un État-nation islamique, etc. Donc ça, c'est le côté ambigu de l'usage qui peut être fait de la pensée iqbalienne. On voit qu'un État comme le Pakistan le revendique comme père fondateur, donc de ce point de vue-là, les islamistes pourraient le revendiquer de la même manière que des libéraux plus ouverts pourraient le revendiquer et le revendiquent effectivement.
C'est là où on voit comment le Bergson, qui a pu les influencer, a été ressaisi d'une manière encore différente, parce que Bergson écrit très peu de textes qui sont proprement politiques, n'est-ce pas ?
Mais oui, en gros, le dernier texte publié de son vivant, Les deux sources de la morale et de la religion, serait le texte le plus politique. On peut considérer également que les discours qu'il a écrits pendant la guerre, parlant de la guerre, sont également les textes politiques de Bergson. Mais ce qui est important, c'est précisément qu'on n'a pas à chercher l'influence, si vous voulez, politique de la pensée de Bergson uniquement dans des textes qui se donnent comme des textes de réflexion sur la société ouverte ou la société close ou la religion ouverte ou la religion dynamique. Comme on l'a vu, des thèses proprement métaphysiques peuvent également avoir une traduction politique très facilement.
Mais on a quand même besoin de vous pour éviter les contresens et bien comprendre ces textes. Alors merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie infiniment, c'est toujours un plaisir.
Votre livre s'appelle Bergson postcolonial, on comprend mieux maintenant l'intitulé de ce livre et je le redis, c'est un petit livre par la taille, extrêmement riche, extrêmement fécond pour ceux qui s'intéressent à Bergson et qui peuvent voir en quel sens une pensée est vraiment et résolument vivante, y compris quand elle est interprétée par d'autres personnes que l'auteur même de cette pensée. On se quitte avec un cadeau, je vous offre un cadeau qui dure 30 secondes. Peut-être le connaissez-vous, mais je pense que le plaisir de le déguster sera intact. Écoutez.
Quel est l'objet de l'art ? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature.
Bon, c'est pas facile d'écouter ce son au milieu du salon du livre, je vous l'accorde. Avez-vous reconnu cette voix, Souleymane Bachir Diagne ?
N'est-ce pas Malraux ?
Non.
Ça aurait pu ?
Oui, ça aurait pu, c'est vrai. Le son aurait été de meilleure qualité, c'est une archive encore plus ancienne, c'était la voix de Bergson, figurez-vous.
Mon Dieu.
C'est le seul enregistrement que nous possédons de la voix d'Henri Bergson.
Il me semble que c'est la première fois que je l'entends.
Eh bien écoutez,
merci pour ce
cadeau. Je suis ravie d'avoir contribué à cette découverte qui a donc été faite en public depuis le Salon du Livre. Intentions are good. I use my intuition. It takes me for a ride. But I never understood other people's superstitions. It seemed like suicide. And as I play the game of life, I try to make it better each and every day. And when I struggle in the night, the magic of the music seems to light the way. L'intuition de Bergson à Mohamed Iqbal, à Léopold Sédar Senghor, jusqu'à John Lennon, c'était le programme du jour en direct, donc depuis le Salon du Livre de Paris. Pour écouter cette émission, vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous trouverez en ligne toutes les références qu'on a données au cours de cette émission, puis vous pourrez la télécharger. la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Il est désormais l'heure, comme tous les vendredis, de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son petit précis philosophique à l'usage des candidats. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Bon, les candidats qui se présentent à l'élection présidentielle cette année ont vraiment beaucoup besoin de vous. C'est une élection compliquée, imprévue. Alors, à quel candidat avez-vous choisi de donner vos conseils cette semaine ?
Eh bien, un candidat qui a fort bien réussi le débat de lundi, mais puisque nous sommes au Salon du Livre, c'est un conseil pour Jean-Luc Mélenchon qui vient de sortir un livre ce mercredi, De la Vertu, mais surtout parce que celui qu'il a sorti en décembre dernier, L'avenir en commun ou le programme de la France insoumise, est l'un des livres, si ce n'est le livre, qui se vend le plus en ce moment, en tout cas dans la section essai, de quoi se pencher sur les mots de Jean-Luc Mélenchon et se demander comment, en politique comme en philosophie, dire c'est aussi faire.
J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après...
Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais pas me présenter du tout.
Certains discours politiques ont tous des plus grands textes littéraires. Le style, les idées et même les personnages avec leur caractère bien trempé et une histoire pleine de péripéties. La fiction en moins, le dénouement en moins aussi évidemment. Mais ils ont peut-être quelque chose en plus, l'engagement de celui qui pousse à prendre parti, de celui qui fait réagir et agir. Tel est le cas des premières lignes du programme de Jean-Luc Mélenchon et tel est le cas aussi de ses premiers mots samedi dernier, le 18 mars, sur la place de la République.
Écoutez ! Écoutez-vous tous cette clameur qui monte de nos rangs. Ce son n'a pas de nom, comme le bruit du vent dans les feuilles, comme celui de la pluie sur le pavé. Ce son n'a pas de nom, mais il est un signal, celui de la force du peuple quand il surgit dans son histoire.
À entendre la foule, et pas seulement celle du Salon du Livre, on ne peut que constater le pouvoir des mots. Mais alors à quoi tient ce pouvoir ? En quoi désigner la foule ? En quoi décrire cette clameur ? Et en quoi aussi constater la force du peuple ? En quoi dire tout cela ? Est-ce faire ? Eh bien, c'est cette question que s'est posée le philosophe anglais Austin dans ses 12 conférences prononcées en 1955, traduites sous le titre très pertinent pour nous aujourd'hui, « Quand dire, c'est faire ». D'autant plus pertinent qu'il y distingue les phrases où l'on décrit, où l'on constate, où l'on affirme, comme celle que l'on vient d'entendre, des phrases où l'on agit, les propositions performatives, telles les paris, le oui lorsqu'on se marie, ou les promesses beaucoup plus courantes en politique. Or, si Jean-Luc Mélenchon semble ne pas faire ici de propositions performatives, s'il semble parler mais non pas agir, ne fait-il rien pour autant ? Le fait de parler, tout comme le fait de provoquer un effet sur son interlocuteur, n'est-ce pas aussi faire ? Mais faire ceci, est-ce encore suffisant ? C'est bien le problème de tout discours politique. Certes, on fait bien quelque chose puisqu'on parle. Certes, on fait bien quelque chose puisqu'on fait réagir une foule. Mais fait-on aussi ce que l'on dit ?
Il y a un nouveau mot d'ordre qui est né après résistance. C'est dégager. Dégager pour que soit aboli les privilèges de la finance, ceux de la caste insolente qui occupe tous les pouvoirs et se les répartit, ceux de la monarchie présidentielle.
Plus intéressant est ce terme de dégager, nouveau mot d'ordre de la France insoumise, plus intéressant parce qu'il engage justement un ordre qui doit être suivi d'une action. Mais là encore, nous dit Austin, certains pourront l'entendre comme un ordre, quand d'autres vont l'entendre comme un conseil, qu'ils ne vont pas forcément suivre. C'est ainsi qu'il faut distinguer la signification, c'est-à-dire comment se dégager est dit, le ton, la manière, le lieu, son effet, comment il est reçu, avec joie ou effroi, mais aussi comment il est interprété. Et ici, c'est une question de valeur. Or, quelle valeur accorder à se dégager ? Et de manière générale, quelle valeur accorder à tout discours politique ? Et comment la déterminer ? Faut-il avoir recours au vrai et au faux ou au fort intérieur, par exemple, de celui qui parle ? Non, et c'est bien là la leçon d'Austin pour nous, le langage n'est pas en plus, il n'est pas, je cite, « l'énonciation extérieure, vraie ou fausse, d'un événement intérieur ». Le langage est lui-même action. Les promesses sont déjà des actions, on aurait tort de s'en plaindre. Mais par contre, peut-on accepter qu'en politique, il n'y ait que ce genre d'action ? Là reste cette question.
Et donc, quel est le conseil que vous donnez à Jean-Luc Mélenchon ? Un conseil, c'est vraiment faire. Donner un conseil, c'est faire quelque chose. Alors, vous lui conseillez quoi ?
Alors, je lui conseille de continuer à parler et écrire parce qu'il le fait très bien, mais pas seulement. Là, le conseil. En fait, le titre anglais des conférences d'Austin, c'est « How to do things with words », en référence ironique au manuel anglo-saxon de l'époque. Alors, peut-être faut-il trouver un manuel qui explique aux politiques comment faire tout court.
Bonne idée. En tout cas, je note que grâce à vous, puisque vous avez diffusé la voix de Jean-Luc Mélenchon, le monde s'est attroupé autour du studio de France Culture. Mais non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas là, mais vous avez Géraldine Mossin-Savoie, Souleymane Bachir-Diane, Florian Delorme, qui vient de s'installer. Autant d'être tout aussi intéressants et qui ne sont pas en campagne. Un grand merci à vous, Géraldine. Je rappelle qu'on peut écouter votre chronique en ligne sur le site de France Culture, sur la page des chemins, précis. Le petit précis, voilà, qui est téléchargeable tout le week-end et puis quand vous voulez d'ailleurs. Hein. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine consacrée aux métamorphoses d'Ovide. Nous parlerons de la création d'un nouveau monde, du texte politique, des passions des dieux et de l'aventure du corps, toute une aventure donc de métamorphose, une manière de faire revivre les mythes encore et toujours. Rendez-vous également sur nos pages Facebook et Twitter où nous mettons en ligne l'émission du jour et puis attendons vos remarques et commentaires. Un grand merci à Antoine Ravon, Marianne Chasseur, Olivier Bétard, Livia Garrigue, Nicolas Bouteloup. Olivier Bétard qui est donc à la réalisation cette semaine. L'équipe technique qui a permis ce direct depuis le Salon du Livre, Élise Le, Gilles Manet, Rémi Gouriou, Benoît Chapon et les autres sans doute.